RMC,
entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Et soudain, samedi soir aux alentours de 22h45, le cœur de tous les amoureux du rugby français est devenu un peu plus léger.
3, 2, 1, c'est voilà, fini. 80e minute, l'introduction pour Maxime Lucu,
Alphine
qui dégage, la France a gagné, la France a remporté le tournoi à destination, après Christian Carra, après Jean-Pierre Rive, après Jacques Fou, après Daniel Dubroca, Benazi, Bagnès Pelouse, Galtier du Sautoir, et bien Antoine Dupont va soulever le trophée pour le 10e grand chelem français. La France a remporté le tournoi à destination 2022.
Ouais. Dupont est en pleurs, le capitaine de l'équipe de France, Super Dupont, celui qui a remis l'équipe de France dans le sens de la marche. Les scènes de joie incroyables, les scènes de liesse ici dans le Stade de France, et ils ont réalisé le grand chelem. Ils rentrent dans le panthéon du rugby français.
Ils sont, il y a les trois Toulousains, la Marchand, Baillet et Dupont qui se font une accolade, dans les bras les uns des autres. On serre la main des Anglais, qui serrent la main des Français. On va faire rentrer aussi le podium pour avoir le trophée. Oh, ça va être bon, ça, ouais, Denis.
Ça va être bon, on va en profiter. Les joueurs se saluent, c'est sympa là aussi, là, ouais. Les Anglais, les Français.
Parce que tour à tour, on a vu les Gallois, ouais, les Irlandais, les Anglais soulever ce trophée depuis plus d'une décennie. Et là, franchement, c'est Antoine Dupont qui va soulever ce trophée. Le meilleur joueur du monde qui va succéder à Thierry du Sautoir dans l'histoire du sport français.
Voilà, moment de grand bonheur attendu depuis tant d'années, tant de défaites encourageantes effacées comme par magie, par la grâce de ce 15 de France qui n'en finit plus de régaler ses fans et de battre tous les adversaires qui se présentent à lui. Les poteaux, on a encore des étoiles plein les yeux et la voix un tout petit peu cassée. C'est évidemment le cas de Denis Charvet.
Non, ça va.
Le seul autour de la table à avoir connu la joie d'un grand chelem sur le terrain, Denis. Bon, c'était il y a quelques années, c'était aussi avec le dernier, au millénaire dernier.
Il
y a 35 ans. Est-ce que ça, de voir ces scènes-là, d'entendre tout ça, ça t'a rappelé ta jeunesse, le ressenti
doit être un peu le même pour les joueurs, c'est tout. Ouais. Après, si notre époque, c'est avec une autre médiatisation, c'est voilà, on parle d'une autre époque.
Wilfried Templier également de la partie. Salut, Monsieur Templier.
Salut messieurs.
Est-ce que c'était ton premier grand chelem au commentaire?
Oui, bien sûr.
La dernière fois c'était Laurent Depré, ouais, encore, qui était là. Et voilà, t'étais encore tout petit, t'avais encore des culottes courtes. C'est magique quand même, hein?
Ouais, on a vécu un grand moment, un grand moment. Puis il y a eu tellement d'années de frustration, de déception, où on n'était plus habitué au final du tournoi à jouer quelque chose, quoi. Donc on regardait les autres, ce que je disais dans le commentaire. On a regardé les Gallois, les Irlandais dans les confettis, le feu d'artifice. C'est chouette.
Ouais, très chouette. Manu Massicard, bon lui il en a vécu un paquet, hein, Manu.
Bon, ouais,
des grands chelems, comme reporter puis comme patron.
Il a couvert le premier,
du
hein
middle.
Ah oui.
Non, tu vas pas te laisser faire, Manu, là quand même.
Non. Je
par le jeune Blanbec
le Rochelet là.
Rochelet quand même.
Ouais, non, c'était le cinquième et toujours autant d'émotions. Franchement, une troisième mi-temps beaucoup plus calme que que toutes les précédentes réunies. Finalement on est rentré à 2h, hein, après le match. Tous, puisqu'il n'y a pas eu de véritable troisième mi-temps. Parce qu'on avait du boulot, tout simplement, mais c'était. Allez, juste formidable.
Ouais. Et puis pour Jeff Paturo, alors le grand chelem, c'est aussi synonyme de galère, celle de devoir chercher le lieu de la fête.
Je connais toutes les péniches par cœur de Paris.
Il y en a un paquet des péniches, ouais, à Paris,
sauf
en plus,
la bonne.
Jeff,
hein. Ouais, c'est ça.
T'as pas trouvé la bonne.
Non, c'était en train de fermer partout. À chaque fois, j'entendais du bruit, je me suis dit, ah, c'est ici. Mais non, c'était pas là. J'étais sur qui vive.
Ouh, il y a quelqu'un. Ouais.
T'as trouvé la coupe dans la scène.
Ouais, j'ai plongé pour récupérer un trophée.
Ouais, ils l'ont retrouvé. Cette histoire là,
ils l'ont retrouvé.
C'était une blague que les joueurs ont.
En tout cas, le trophée était bien à la fin de la soirée dans les bras des joueurs et de l'encadrement de l'équipe de France de rugby. Le trophée est bien avec les Bleus, il n'y a pas de problème, il n'est pas dans la scène.
Bon, eh ben, écoute, tant mieux pour le trophée. C'est vrai que le
à côté
bouclier,
d'un Vélib,
le bouclier
scène,
par exemple, a souvent morflé. Il a dû être, être refait régulièrement pour être remis chaque année. Aujourd'hui, entre les poteaux, nous allons donc célébrer ce 15 de France qui rend à nouveau ses supporters fiers, ses Bleus devenus chouchous du public français. Il y avait près de 10 millions de téléspectateurs, hein, samedi soir dans le Money Time de cette partie, sans compter les 80 000 ou presque spectateurs d'un Stade de France chaviré de bonheur. Si ce succès est évidemment l'œuvre des joueurs sur le terrain, du travail efficace d'un staff, il est aussi la victoire de tout le rugby français, fédération, club, ligue, qui une fois n'est pas coutume ont su oublier les querelles intestines, faire front commun pour obtenir ce grand chelem. Et maintenant, car ce premier titre de l'ère Galtier donne beaucoup d'appétit, d'autant que dans un peu plus de 17 mois, une coupe nommée Web William Webb Ellis débarquera sur le sol français. Une coupe qu'on aimerait bien garder à la maison et soulever dans le ciel de Saint-Denis. Ce sera le 28 octobre 2023. Alors, que faire pour que la France devienne enfin championne du monde? Sommes-nous désormais favoris pour décrocher le trophée? Quel piège va-t-il falloir éviter? Et en quoi peut-on encore progresser? On se posera toutes ces questions dans un instant. Mais avant cela, l'émotion, celle d'un garçon qui, il y a 9 mois, évoluait encore en Pro D2. Aujourd'hui, il fait partie d'une des 10 équipes de France de l'histoire à avoir réalisé le sans faute dans le vieux et prestigieux tournoi Destination, le Perpignanais Melvin Jaminet.
C'est une émotion assez indescriptible. Voilà, quand je suis sorti et qu'il restait 2 minutes 30 et que je levais les yeux, que tout le monde criait, que je voyais tout le monde qui était content. C'est pour ça qu'on joue au rugby, c'est pour ça qu'on a envie de vivre ces émotions. Et forcément, ce soir, on est tous très heureux.
Voilà, joie tranquille quand même, hein.
Mesuré,
dans l'euphorie. Alors c'est à quel moment que tu l'as interviewé? C'était longtemps
après, pas très longtemps après la fin du match, et ils n'étaient pas encore partis sur la péniche.
Ils n'étaient pas encore.
C'était un peu exténué aussi. Ouais.
Ah, j'imagine.
Bizarrement.
Le match était un peu tendu. Un match intense. La belle émotion de Jaminet, il est évidemment pas la seule à l'avoir connue. On a vu aussi des larmes. On en parlait il y a quelques instants, celle d'un jeune capitaine devenu en quelques mois à peine le meilleur joueur du monde et qui a encore prouvé samedi soir qu'il était de la race des grands, des très grands. Un chapeau Super Dupont, c'est vraiment le leader maximo de cette équipe.
On a fait une émission sur la dépendance Dupont, plus que jamais il y a une dépendance Dupont. Je pense qu'on ne sera pas champion du monde sans lui.
Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui il irradie cette équipe, il a pris les commandes en main, il est monstrueux en défense, il rattrape des coups et il casse des coups des adversaires à lui tout seul. C'est un phénomène, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a vu venir, mais je crois que l'influence qu'il a sur cette équipe de France, elle est énorme.
Et puis au-delà des progrès qu'il a fait au pied, où il est monstrueux, en défense, où il est monstrueux, c'est lui qui fait le plus de plaquages, maintenant il fait même ça, il pousse
et puis il marque quand il faut marquer.
Et voilà, souvenez-vous, on était tendus, on se demandait comment ça allait se passer. J'ai même dit, sors-nous quelque chose de ta botte secrète.
Il y a 18-13, n'oubliez pas.
Il marque comme ça, oui.
Le service du pont. Il rassure tout le monde, il rassure. Vous voyez dans le regard de ses partenaires que... Il y a quelque chose, une force supplémentaire.
Non, mais je pense que c'est Bernard Laporte qui disait, il l'admire, il le bade. Il employait le mot, ses partenaires le badent. C'est-à-dire que ça va au-delà, quoi. C'est-à-dire
et le président aussi le bade.
Ouais, c'est un exemple à suivre, ce qu'il disait Cameron.
Et après, au niveau du capitanat, je ne sais pas comment ils vont faire.
C'est dit. Bernard a dit qu'il fallait qu'il reste capitaine.
Il n'y a pas de discussion.
Bernard n'est pas sélectionneur.
Oui, mais enfin, il a quand même dit, bon pour moi. Il n'y a pas de discussion.
Alors, il n'y a pas de discussion. Dupont ne sera sans doute pas à la tournée au Japon cet été. Peut-être si Charles Olivon retrouve toutes ses qualités, il y sera sans doute.
Oui,
et est-ce qu'il faut lui redonner temporairement le brassard capitaine? Ça va être un beau
parce que casse-tête quand même. Même si tu le laisses à Dupont, il sera toujours vice-capitaine. Donc, il a une importance dans le groupe. Ouais. S'il revient, attention, parce que maintenant, avec la troisième ligne qui est en place.
En
juin, Wilfried, les oui. Les Toulousains.
Non, mais Denis dit il sera vice-capitaine après. Bah, c'est pas certain, enfin, mais souvent, les vice-capitaines, ils sont sur le terrain.
Oui,
c'est vrai. Mais là, qui on enlève? Parce que je peux vous dire que.
Mais je crois que la question ne se pose pas aujourd'hui par rapport à Charles Olivon. Je pense que lui.
Olivon, il peut jouer arrière ou pas? Non. Il y a peut-être une place qu'on pourrait mettre.
Mais je pense que même dans la tête de Charles Olivon, c'est clair.
Non, il faut le laisser revenir.
Lui, il a envie de gagner.
Le Toulousain Rochelet, non seulement il a enlevé le brassard à Olivon, et maintenant il lui enlève aussi sa place de titulaire. C'est pas très sympa quand même.
C'est pas ça, mais laissez-lui le temps de revenir. Il n'a pas enchaîné 2 matchs. Il a joué 1 match. Il n'était pas là contre La Rochelle. Donc il a eu les croisés. Normalement, il doit aller en tournée au Japon, mais encore faut-il qu'il puisse retrouver. Et on lui souhaite, c'est un immense joueur, Charles Olivon, quoi. Donc, qu'il retrouve sa plénitude. Mais et puis après, ce sera le bordel.
Christophe, je vais te dire, après, la route est longue. Il y a des blessés, on ne souhaite pas les blesser, mais tu sais, le turnover, il y a plein de turnover. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'il s'inscrive déjà dans cette équipe de France à nouveau, en tant que joueur.
On a des problèmes de riches, quand même, messieurs. Hein.
Oui, ça, c'est un problème qu'on n'avait pas avant ça. Hein.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, profitons-en un petit peu.
Ouais. Alors messieurs, avant de nous intéresser à la suite, un mot quand même de ce match qui a été tour à tour enthousiasmant, frustrant, crispant et qui s'est achevé par le soulagement. Comment vous l'avez vécu? Je sais que Denis, en optimiste qu'il est, prévoyait à la mi-temps qu'on allait mettre 40 points, grains aux Anglais.
Au stade, il disait qu'il allait avoir match nul. Il arrêtait pas de dire non, ça va finir par match.
Non. Début de, à la mi-temps, et il nous dit on va leur en mettre 40.
Alors, dans les paris sportifs du matin, j'avais dit entre 8 et 14, l'équipe de France va gagner.
Oui, non, mais c'est sûr, mais vous avez des tickets de tous les côtés. Donc,
non, mais ça, c'était
jamais qu'elle était notre
pronostic. Pour nos auditeurs.
C'est facile, il parie toute la semaine.
Pour nos auditeurs,
à la fin, il va avoir un bon moment.
Tu n'étais pas là, non, tu n'étais pas là.
Et parce que nos auditeurs, samedi soir, ils comptaient pas alors.
Oui, mais s'ils m'ont écouté, peut-être qu'ils ont gagné pas mal d'argent.
Ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils n'ont rien gagné. Voilà le problème.
Non, pourquoi j'ai dit 40 points à la mi-temps, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, tu sentais que les Anglais allaient craquer. Voilà, complètement. Et les Français avaient été vraiment dominateurs. Et tu te dis, ça va faire comme la Nouvelle-Zélande. Et j'ai vraiment cru. Et bon, ça, finalement, les Anglais ont vraiment résisté et jusqu'au bout.
Ouais. Il y a eu le trou d'air traditionnel, Manu, quand même, hein, qu'il y a eu déjà face à la Nouvelle-Zélande, face à l'Irlande.
Ça fait un moment. C'est un marqueur du parcours de cette équipe. Cette difficulté à reprendre la main sur le jeu, parfois finir.
Les Anglais ont montré un autre visage, Manu. Hein,
oui, tout à fait. Ils sont montés en puissance. Mais nous, on les a laissés jouer aussi. On les a attendus. On n'est pas allé jouer chez eux. Au moins, pas assez. Après, on réagit de fort belle manière avec, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un Dupont qui est tout simplement stratosphérique.
Mais encore une fois, on passe notre match à plaquer.
Ouais.
Et 152 plaquages sur ce match.
Tu plaques beaucoup face à une équipe anglaise qui n'est pas formidable, attention. Hein, donc tu ne joues pas une grande équipe d'Angleterre,
centre, ils étaient...
qui a beaucoup tapé au pied, qui n'a pas beaucoup joué à la main.
Mais Denis, on se l'est dit. Il y a une redistribution défensive de cette équipe de France après chaque ruck. La ligne qui sort, c'est des petites fourmis, quoi. Ça reconstruit. Ouais. Ligne Maginot. Et Shaun Edwards, hein, il est pour quelque chose dans cette organisation défensive. Et puis les joueurs, dans leur efficacité, c'est un mur. Et ensuite, après, on est injouable au sol. Dès qu'il y a un ruck, Marchand, Danty, les pénalités pleuvent. Donc.
Oui, mais... Denis, t'es sévère quand même quand tu dis on n'a pas vu une grande équipe d'Angleterre.
Ouais, moi aussi je trouve
qu'on progresse par rapport il y a quelques temps.
Ouais, c'est leur meilleur match.
Marcus Smith a été énorme. Ouais. Marchand, là, il est pas mal du tout.
Oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe d'Angleterre après 33 temps de jeu qui est aussi déboussolé. Je suis désolé, mais
ils ont été déboussolés en première mi-temps.
Stratégiquement, ils font pas les bons choix.
Excuse-moi, si tu fais pas les fautes de main qu'il y a en cours de route, tu peux leur mettre 40 points, c'est sûr. Hein.
Ouais, mais tu fais aussi les fautes de main parce qu'ils sont là et qu'ils t'imposent une intensité.
Non, pas vraiment. Non, Ficou, quand on le ballon, je suis désolé, excuse-moi, il y a un trou béant, il y a essai. Jaminet avec, comment il s'appelle, avec Villers, c'est la même chose.
Ouais. Jaminet qui oublie le surnom aussi. Là-dessus, on est d'accord.
Il y a eu Romain Ntamack deux fois, je crois. Non, mais tu regardes le déchet qu'il y a eu quand même chez nous, c'est inhabituel.
Pendant la première demi-heure, il nous impose quand même une grosse intensité. Ouais, après qu'on ait été stressé, tendu, un peu plus que d'habitude, oui, mais c'était pas pourri ces Anglais quand même. Hein.
Non.
Évidemment. En revanche, leur stratégie donne à réfléchir avec en se séparant
numéro
autant
8,
du pied.
Ouais, et puis en envoyant le petit
cochon au fond du terrain là-bas.
Ouais.
Bizarre. Évidemment, dans la tribune du staff du 15 de France, on a aussi tremblé. Écoutez le sélectionneur.
C'était sublimement tendu, on va dire, ou merveilleusement tendu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu encore, en fait. On n'avait pas vécu ce type de match fermé, avec beaucoup, justement, d'enjeux sur chaque phase, sur des décisions qui, chaque fois, pouvaient inverser le cours de la rencontre. Donc, pour notre équipe et pour nous, c'est une première expérience incroyable, qui va nous faire grandir encore.
C'était pas le cas contre le Pays de Galles ?
Le match tendu, quoi.
Ouais, un match
très tendu. Plus tendu.
Contre l'Irlande, ça a été tendu.
Pour moi, le match le plus tendu, c'est au Pays de Galles.
Ouais, mais là, c'est une finale. Là, c'est pour le trophée.
Alors, il veut dire que c'est la première fois qu'on jouait une finale.
Ouais.
Non, mais je pense pas.
Raté les autres avant.
Oui, et puis lui, il a tellement annoncé qu'il allait gagner un titre, qu'il fallait gagner des titres, que c'est un soulagement pour lui, quand même.
Être dans les trois meilleures équipes de la planète.
Oui, mais donc,
un titre, on est deuxième.
Et voilà, donc félicitations à Fabien, à son staff, parce qu'effectivement, ils font partie de la réussite de cette équipe de France. Et ça
mérite une prolongation, tout ça.
Et on va en parler, évidemment.
Allez, alors.
Un petit mot quand même de Eddie Jones, le sélectionneur anglais, qui reconnaît que la France mérite ce grand chelem parce qu'elle est tout simplement la plus forte. C'est quand même assez rare. Hein, que
lui qui avait dit qu'il allait gagner ici, qu'il allait nous mettre une leçon, qu'il allait jouer au rugby.
Il avait dit ça il y a 2 ans.
Il est sur la sellette, monsieur Jones.
Ouais, mais a priori, la Fédé a dit qu'il continuait au moins jusqu'à la Coupe du Monde.
Le soutien de la Fédé.
On verra. Alors,
il coûte combien, Monsieur Jones?
Ah, je sais pas, mais
voilà.
Ça fait... pas être donné.
Pas tant que toi, je crois.
Alors écoute, on va prendre nos salaires et puis ça ira bien.
Alors, qui dit premier titre dit aussi troisième mi-temps. Bon, Manu nous a un peu cassé le truc voilà, en disant qu'il n'y a pas eu de troisième mi-temps quand même.
Pour nous, non.
Quand même. Moi, j'ai lu le papier. Ah oui, j'ai lu le papier dans Milieu Olympique aujourd'hui. Il s'est passé des choses quand même.
T'as pas lu le mien, quoi, aussi encore.
Si, j'ai lu
le
tien aussi.
Il aime les bonnes choses.
Vous n'avez pas les mêmes avis à la fois sur la troisième mi-temps, sur la prolongation de Galtier. Il y a un peu de friture sur la ligne en ce qui concerne Milieu Olympique et RMC. Donc je ne sais plus à quel sens vous vouez. Quoi.
Bah, c'était le bon endroit en tout cas. C'était le diamant bleu et on n'est pas allé.
Le diamant bleu. Ouais.
Et on n'est pas allé. C'était vraiment un diamant bleu cette soirée.
Bon, c'était loin des fêtes des Gachassin, Rive, Charvet quand même. Hein. C'est des petits joueurs.
Ils ont continué le dimanche aussi.
Ils ont continué très longtemps. Ouais, je peux te dire que certains étaient
très
fatigués.
Hier soir, ils dînaient avec le président avenue Georges V. Pour savoir.
Christophe
Oui.
Avec les joueurs aussi.
Non, les joueurs aussi.
Avec les joueurs,
les joueurs qui sont restés. Ouais. Certains étaient rentrés.
Pas tous, hein, il y en a une vingtaine, je crois. Qu'ils sont
restés. Romain Tamac était hier soir à Toulouse
avec Cross, François Cross aussi.
Bon.
Je pense que le petit Dupont est resté.
Oui.
Oui.
Ah ben, capitaine, il faut bien rester. Avant cette troisième mi-temps, il y a aussi eu la communion avec le public du Stade de France. On nous l'a changé, notre grand stade, messieurs. On avait déjà ressenti ça au moment de France-Nouvelle-Zélande, mais c'est incroyable.
Ouais,
c'est
d'ailleurs, incroyable. On a reçu Cameron Walkie au Moscato Show, qui nous dit que ça n'avait rien à voir, que c'était encore plus fort. Et c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'était déjà très très fort. Il dit, là, il y avait une communion, il y avait un truc qui s'est passé, électrique. Enfin...
Mais c'est vrai qu'en plus, tout est beau.
Moi, j'ai pas senti ça.
Hein. Oui, mais alors, les joueurs, oui, moi non.
Pendant le match, non. Moi, j'étais moins fort que sur la Nouvelle-Zélande.
Ah, un peu pareil. Après...
Il y a
40-25 aussi, les gars.
Ils
reviennent, on leur repasse devant, la relance de 100 mètres, les essais de partout. C'est...
Comme quoi, il faut un match de rugby pour vibrer, tout simplement.
Bien sûr, mais le fait qu'il y ait une nouvelle, la luminosité au Stade de France, de le plonger dans le noir,
c'est par rapport à l'attente. L'attente était tellement incroyable que, effectivement, c'est ce que disait Walkie aussi cet après-midi. Il disait, l'attente était tellement incroyable qu'on l'a ressenti.
Donc le public, mais ça ambiance, comme disent les jeunes. Ça ambiance les gens quand même. Karaoké avant le match, musique à donf comme ça.
Ça chauffe là.
Il y a une atmosphère de fête.
La salle est chauffée, ouais.
On n'ira plus au Tiger Lily, on ira au Stade de France.
Le Stade de France qu'on détestait.
Ce que disait Bernard Laporte lorsqu'il était sélectionneur. Il disait qu'il n'y avait que des bourgeois de merde dans ce stade.
Oui, mais il y a aussi le fait que la pelouse est assez loin des tribunes et qu'on disait qu'il était froid ce stade. Et là, c'est vrai qu'il y a tellement de chaleur humaine que tu dis finalement, ça va, la communion, ça va être super.
Exactement.
Les bières pour
les Français continuent de gagner, évidemment. Sur la pelouse, tout le rugby français était présent. Les joueurs, évidemment, le staff, les dirigeants de la Fédé, les représentants des clubs, notamment le président de la Ligue René Bouscatel. Ce succès, c'est aussi l'œuvre de tout le rugby français qui a su enterrer la hache de guerre. Ça aussi, c'est nouveau et moi je tenais à le souligner, Manu.
Mais c'est une vraie différence parce qu'il y a quelques années, il y avait une guerre larvée, une vraie guerre entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby. Le climat est vraiment apaisé, les clubs jouent le jeu. C'est aussi la victoire des clubs, ce tournoi d'assignation.
C'est pour ça qu'ils ont fait descendre René Bouscatel sur la pelouse au moment de la remise du trophée.
Et on rappelle que les clubs vraiment mettent à disposition leurs joueurs, qu'il y a 42 joueurs pour Fabien Galtier, qu'il a du temps et il y a des conditions même supérieures à ce qu'ont les Anglais, par exemple. Et c'est vrai que les clubs jouent le jeu. Après, ils ont une redistribution sur ce que touche la Fédération française de rugby. Elle reverse de l'argent à la Ligue nationale de rugby, mais c'est vrai que c'est aussi la victoire des clubs, ce grand chelem.
Ouais. Est-ce que ça va durer et jusqu'à quand? Bon, jusqu'à la Coupe du Monde, a priori. Après, Manu, est-ce que...
Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas jusqu'à la Coupe du Monde, puisque tout
la
le
coupe
monde
du monde, ouais, je pense
a mis le doigt sur la couture du pantalon, et même les clubs qui n'ont plus leurs internationaux pendant 6 mois bientôt, trouvent que c'est formidable. Donc, effectivement, vous avez raison. Mais c'est l'union sacrée, on sera champion du monde comme ça.
Heureusement que Toulouse a gagné contre Montpellier.
Oui,
fait du bien. Ça fait du bien à l'union sacrée. À l'union sacrée, quand même.
Tout le monde est dans le marche.
Si Toulouse est dans les 6, ça fera du bien.
Ça va aller.
Évidemment.
Non, mais vous savez très bien que les hommes sont en place et les hommes s'entendent et tout s'est fait pour l'élection de la Ligue nationale de rugby et que la Fédé a œuvré pour ça aussi et que les gens s'entendent là maintenant.
Ils s'entendent parce que ça gagne. C'est tout simplement. Tant que ça gagne, ça va.
Exactement. Tout le monde se tait, personne ne bouge, ça gagne. Mais tant mieux, parce qu'on a besoin de ça.
Bien sûr,
on a besoin d'avoir. On a une génération extraordinaire, on a un staff qui travaille bien, qui a des moyens. Il y a, et il manque et jusqu'à présent qu'une chose, c'était la collaboration.
C'est fragile, tu sais,
on
Manu.
On a la paix, c'est génial. Oui, et mais... surtout, ne soufflez pas sur les braises.
Mais non, soufflez pas sur les braises, mais tu sais très bien qu'on aurait perdu un match ou deux. J'aimerais entendre ce que dirait aujourd'hui Didier Lacroix ou. Enfin voilà, tu
Didier Lacroix, il a jamais dit de mal. Hein.
Mola,
mais vous ne pensez pas que tous les anciens sélectionneurs aussi, quand même, doivent un peu l'avoir mauvaise, quand même, de voir les conditions dans lesquelles Galtier et son staff ont pu travailler, les joueurs à disposition.
C'est Guillaume Guirado qui racontait ça à Julien Landry la semaine dernière. Ils avaient un peu l'impression d'être des rats de laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a eu les premières mesures, les gifs, etc. Mais on était à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. Et c'était que le début. Oui, mais Marc Livremont, ou plus récemment, Marc Livremont le disait, ou Philippe Saint-André.
On n'était pas dans ce professionnalisme d'aujourd'hui, mais oui, mais on n'était pas dans le professionnalisme d'aujourd'hui. C'est là où tu peux pas raisonner comme ça.
Non, mais en plus, tout le monde souhaitait pas la réussite de
Mais pas longtemps, c'est depuis deux ans, voilà, depuis l'arrivée de Fabien Galtier. Et souvenez-vous, c'est le président, et là il faut lui rendre hommage, Bernard Laporte, qui a dit je vais mettre le prix pour le staff. Il a mis 5 millions d'euros alors qu'on était à 2 millions et demi. Enfin voilà, il a doublé le prix du staff.
La bonne nouvelle pour le trésorier, c'est qu'il va encore pouvoir mettre la main à la poche, parce que je pense qu'il va y avoir des petites renégociations dans la semaine à venir.
Tu as raison, pour le savoir, c'est vrai que Bernard ne pourra pas empêcher quelqu'un d'aller entraîner un club ou d'aller dans une sélection.
Je pense qu'il faut surtout qu'il il y aura aussi ces interrogations Sean Edwards.
Oui, non, mais il y aura ces interrogations-là, pas que Sean Edwards.
Il faut de la stabilité partout. Bien sûr.
Alors, on le sait, Fabien Galtier a donc été reconduit jusqu'en 2027 ou 2028. Les avis divergent selon.
C'est 2028.
Vas-y, Jeff.
Défend sa position de 2028.
Non, mais Jeff a raison. Jeff a raison.
D'accord, ok.
Mais Jeff a raison, ça sera jusqu'après la Coupe du Monde 2027 et avec le passage à négocier, tournoi, pas tournoi. Mais la bascule sera, pour moi, la bascule se fera en 28.
En fait, pour savoir ce que pense Bernard, c'est-à-dire que lui, il pense que quand il y a des Coupes du Monde, si l'entraîneur ne continue pas son mandat après la Coupe du Monde, on pourrait penser que les joueurs n'ont pas la même approche, le même état d'esprit.
Exactement.
Oui, c'est le raisonnement de Bernard. C'est pour ça qu'il veut le prolonger.
En revanche, pour un sélectionneur qui arrive, il n'a que 3 tournois pour préparer la prochaine Coupe du Monde.
Il partira avant.
Oui, c'est possible. Et l'avantage, c'est si tu fais un contrat jusqu'à fin juin, voilà, tu peux récupérer quelqu'un qui est sous contrat jusqu'au 30 juin et l'avoir à partir du 1er juillet, un technicien qui est sous contrat en club. Oui. Tu peux l'avoir à ce moment-là de la saison.
Tu fais sa saison en club.
Voilà.
Ouais. Tu peux l'avoir. Ouais, tu l'auras déjà intégré pour la Coupe du Monde 2027 et il t'accompagnera en 28.
Comme on l'a fait en 2019.
En fait, si vous voulez,
on
va pas s'écharper sur 6 mois. Exactement. L'idée, c'est que le sélectionneur actuel aille jusqu'au bout de la Coupe du Monde 2027, pour peu qu'il n'ait qu'il ait quand même gagné la 2023.
Ça serait mieux,
ça serait mieux. Et après,
de pas se faire sortir en poule, ce serait mieux aussi, parce que là, voilà.
Et après, si on fait un doublé et que le sélectionneur actuel décide de partir sur un doublé, ça partira avant, et s'il a besoin de rester, il restera.
Je suis champion du monde en 2023, je m'en vais le lendemain.
Ouais.
Ouais. Oui.
Surtout si tu adjoins, et ça va être l'objet des négociations actuelles.
Ouais, exactement. Très bien, on aura le temps évidemment d'en reparler. Hein. On est là jusqu'en 2028, normalement, si tout va bien, si nos contrats sont prolongés.
J'ai re-signé là, ça y est.
T'as re-signé et t'as eu une petite augmentation ou non?
Non, c'est pas ce qu'on m'a dit, Wilfried, moi. Mais
t'as passé ton entretien annuel, Wilfried?
Avec Denis, on a gagné le grand chelem. Il nous re-signe.
On a eu les félicitations de Pierrick, notre producteur.
Oui, c'est vrai.
Pour l'after. Donc je vous dis déjà, on est encore là, un petit moment.
Alors, aussitôt le grand chelem décroché, les Bleus se sont donc tournés vers la Coupe du Monde.
Pierrick,
non, il a pas
trouvé
le diamant bleu, donc pas.
C'est pareil.
C'est
le réacteur en chef des
Red Bull. Pierrick, le producteur.
Oui. Ah, excuse-moi, maintenant, c'est les mecs qui montent si haut. Moi, j'ai les connus en bas, lui.
Tout petit.
Il veut porter le sac, lui, comme les autres.
Il fait aussi de porter le sac.
Bien sûr.
Mais il te piquait la place aussi.
J'ai toujours lui chercher les cafés à la mi-temps.
Mon chef, c'est toi.
Merci.
C'est mon chef.
C'est Jeff, notre chef vénéré à tous.
On l'aime.
même. Merci beaucoup. Ouais.
Non, on peut quand même parler de.
Oui,
ça vous ennuie. Allez,
mais non, parce que sinon, votre cuisine. On vous laisse.
Donc, je le disais, la Coupe du Monde, c'est dans 536 jours exactement. Avant, évidemment.
Ça dépend quand est-ce que les gens écoutent le podcast.
Ouais. Il faut l'écouter ce soir. Parce que là, tu l'écoutes ce soir. Autrement, demain, ce sera 535. Voilà. Et après-demain, 534. Non, mais je rêve. Je ne sais plus ce que je disais.
La Coupe du Monde.
Voilà. D'ici là, il va y avoir quand même quelques petits matchs à jouer pour l'équipe de France. Ça a commencé par une tournée au Japon cet été, qui servira a priori surtout de revue d'effectifs. Mais il y a quand même la série d'invincibilité à poursuivre. Ce serait quand même dommage de s'arrêter là. Il faut battre le record quand même, a priori contre le Japon.
Il va y avoir qui dans cette tournée? Ben si, tu auras ton recommandé de Taulier. Tu ne peux pas partir sans leader, il me semble. Après,
t'as des demi-finalistes.
Le problème, oui, tu as raison, Wilfried. C'est vrai que tu peux te retrouver comme une équipe mixte en Australie l'été dernier. C'est vrai que c'est
mais elle a servi cette tournée en Australie.
Oui, on a vu l'avènement de Jaminet.
Brocchi qui avait été excellent.
Brocchi.
Ouais, elle a servi à faire reposer les cadres aussi.
Bien sûr.
Surtout. Et ça compte.
Non, mais il y aura des retours. Arthur Vincent, on peut penser qu'il sera pas de la tournée.
Déjà, tu penses?
Il y a des chances. Ouais.
On va rejouer d'ici la fin de saison, mais est-ce que c'est pas un peu vite quand même?
Non, Charles Olivon. Je pense qu'il a des chances de rejouer au mois d'avril.
Oui. Non, il va revenir. Arthur Vincent sera prêt. Charles Olivon.
Je vais comparer à un resto.
Qui s'est cavé comme blessé. Teddy Thomas peut revenir dans le game et pourquoi pas faire une grande tournée.
Resto?
Non, mais.
Ouais. Il peut.
Non, mais le réservoir est tellement grand, tu l'as dit, Manu. Oui. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis, si tu ne gagnes pas au Japon, alors c'est champion du monde.
Évidemment. Et puis, le prochain, alors le vrai gros rendez-vous, ce sera donc à l'automne, face à la seule grande nation que la bande Galtier n'a pas encore battue, ni jouée d'ailleurs. C'est l'Afrique du Sud. Là, ce sera le vrai test. L'Afrique du Sud qui est numéro 1 mondial. Nous, on est numéro 2 actuellement.
Mais ça nous est arrivé un jour d'être numéro 2? La question que je me
numéro
posais.
Deux,
c'est peut-être pas la première fois, Manu, toi qui es quand même.
Oh non, je suis nul en stats là-dessus.
Ah bon. Il me semble qu'on n'a jamais été numéro 2, mais bon,
depuis
vérifier.
Que le ranking existe, je sais pas. Je vais regarder parce qu'ils nous mettent les années, on peut retrouver. Je vais vous dire ça, continue, Christophe.
Ouais, numéro 1, ça, on n'a jamais été, a priori.
Non, mais on a pu l'être à un moment, mais.
Ouais, subrepticement.
Peut-être après la finale de la Coupe du Monde 2011.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais, derrière la Nouvelle-Zélande, mais bon, voilà, c'est pas très important de toute façon. Mais ce match face à l'Afrique du Sud, sera un vrai énorme test avec une équipe qui ressemble un peu quelque part à l'équipe.
Une équipe qui peut nous pas nous convenir dans le sens où on abuse de la dépossession comme un petit peu l'Afrique du Sud peut le faire, mais surtout physiquement ils sont à un autre niveau que l'Angleterre aujourd'hui, que les Gallois, que les Irlandais. Voilà, la densité physique, à mon avis, il va falloir les affronter. Et là, je pense qu'il faudra faire autre chose, aller un peu plus dans de jouer davantage et de prendre un peu plus de risques. Parce que sinon, on risque de se faire concasser.
Voilà. Donc,
la tournée, les trois matchs sont intéressants en plus.
Oui, parce qu'il y aura l'Australie également.
Il y a l'Australie au Stade de France.
Et une nouvelle fois le Japon.
Exactement. L'Afrique du Sud à Marseille et le Japon à Toulouse. C'est trois oppositions de styles différents en plus.
L'Afrique du Sud sera très très intéressante parce qu'on a, vous me permettez l'expression, cassé la gueule à beaucoup d'équipes devant.
Ouais.
Et quand je vous dis qu'on est injouable au sol et tout, et alors avec eux, ils ont les mêmes qualités que la défense. On a un peu plus de génie, j'ai envie de dire, derrière, encore que la finale Coupe du Monde, on va prouver aussi qu'ils savaient jouer au ballon. Mais leur leitmotiv et leur passion, c'est de casser la gueule aux autres.
Après,
c'est le premier match,
pardon. Là-dessus, ça va être.
C'est le premier match.
Une petite réserve, c'est la tournée, ils viendront en fin de saison comme d'habitude.
Oui, bien sûr.
Sans doute un peu moins fort. Mais après, je rejoins Wilfried. C'est le seul match qui compte de la tournée. Et sans doute avant la Coupe du Monde. Parce qu'après, on aura un tournoi sans doute en demi-teinte et où chacun va planquer ses petits pour pas se dévoiler.
Avec en
vraiment,
plus,
ça sera le gros test avant la Coupe du Monde.
Déplacement en Irlande et en Angleterre. Hein, les années impaires, c'est toujours
faudrait
plus compliqué.
Faudrait pas qu'on perde à Rome.
Non, ce serait quand même dommage.
On sera peut-être champion du monde. on ira en finale si on perd à Rome.
C'est ça. Ouais.
Alors, cette victoire dans le tournoi, elle change quoi? Bien, je vous propose d'écouter la réponse du sélectionneur. Famille
à l'instant T, ça apporte beaucoup de joie. Quand tu gagnes, ça veut dire que tu travailles bien, que tu choisis les bons joueurs. Là, je pense qu'on a dépassé 75% de victoires, toutes compétitions confondues. Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Il n'y a aucune raison pour que l'équipe ne continue pas à progresser. Et cette expérience, jouer ce match avec cette tension qui, d'un coup, nous a sauté dessus. Pourtant, on l'avait abordé avec le plus de détachement possible. Il faut vivre ces matchs de finale, en fait, pour continuer à grandir. Et c'est notre 25e match. La Coupe du Monde, ça sera le 46e, la finale. C'est assez clair dans nos têtes.
Ah ben c'est la flèche du temps, lui, c'est clair. Hein.
Mais il n'en parle plus de flèche du temps.
Non, il n'en parle plus.
Ce terme, flèche.
Oh, il a arrêté. Mmh.
Voilà.
Ouais, 40... ben là, il te dit 46e, ça sera la finale,
25e. Non, mais il a tout compté.
Oui,
il...
Ouais.
Ouais. Et ouais. Il se projette jusqu'en finale. Hein.
Ouais, ouais.
Ouais, il ne faut pas qu'il programme trop tout non plus. Hein.
Bah, écoute. Bah, il a... Si, je pense qu'il a raison de dire. De,
oui,
de...
Non, mais bien
vous,
sûr.
Vous, je... vous voulez viser quoi, vous?
Je plaisante en même temps.
Non, non, non. Ouais, moi je vois le quart de finale. On vient de tellement loin que le quart de finale.
Je pense surtout que cette équipe, elle va encore progresser, il me semble.
Ouais. Je pense en quoi elle peut progresser, justement? Qu'est-ce qu'il faut travailler en priorité, selon vous? Quels sont les domaines où l'équipe de France est encore
Je pense qu'elle a les moyens de faire un jeu un peu plus élaboré, dans le sens de jouer davantage.
De moins rendre le ballon, de moins jouer en dépossession,
ouais,
tu veux dire?
Un peu moins, peu moins. Je crois qu'on samedi, on l'a vu, on a beaucoup abusé. Regardez les limites qu'on peut donner à cette équipe de France. Et au Pays de Galles, on gagne. C'est un petit miracle, parce que si on perd, c'est pareil. On a abusé de la dépossession, alors qu'on fait 20 premières minutes où on met les Gallois, mais complètement, ils étaient déboussolés. On peut en marquer 20 points au moins.
Ouais, ça va être ça. La gestion des temps faibles et de certaines séquences du match où, après avoir démarré très très fort, et souvent marqué, hein,
et souvent marqué,
on marque très rapidement. Et après, on tombe dans un jeu d'attente, on rend le ballon, et là, il y a sans doute trop de risques.
Et le staff a mis l'accent aussi sur le retour des vestiaires. C'est vrai que c'était un moment important, et sur plusieurs matchs, on voit que
c'est contre les trois matchs dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est
on a un creux en milieu de première mi-temps, on finit bien la première mi-temps, et après, on a du mal à revenir après.
Ouais. C'est assez récurrent quand même. Alors que
avant, c'était les fins de match.
Mais c'est intéressant.
On perdait.
Pas besoin de nous pour savoir ça. Et donc, on travaille dessus.
Mais comment tu travailles ça? Je veux dire, c'est quoi? En faisant des entraînements à haute intensité?
Oui,
mais encore plus souvent que
la vidéo, en parler ensemble. Je pense qu'ils doivent déjà en parler ensemble.
Ils en parlent déjà ensemble. Et à la mi-temps, ils mettaient l'accent pour redémarrer fort. C'est ce que nous avait dit Thibaut Giroud il n'y a pas longtemps sur l'aspect physique et du jeu. Mais c'est vrai qu'avant, on avait du mal à finir. Maintenant, c'est plutôt le réenclencher la machine.
Oui, il nous disait aussi, Jeff, que les autres avaient le droit d'être bons aussi.
Oui, bien sûr.
À certains moments. Hein, et quand vous disiez on se rappelle qu'en face, c'est la Nouvelle-Zélande, un coup l'Irlande, un coup l'Angleterre. C'est pas des.
Oui, mais Wilfried, je suis d'accord avec toi, mais tu sens que t'as encore sur la pédale. C'est ça qui est un peu frustrant, cette équipe de France.
Oui, mais est-ce que tu
le sens tellement au-dessus?
80 minutes comme ça.
Ah ben non,
tu te rappelles les salves qu'ils ont? Non, je pense qu'à un moment, il faut aussi gérer.
Oui, évidemment. Il faut encaisser, mais ils ont tellement de talent partout, c'est que tu te dis, c'est un peu frustrant de ne pas les voir.
Non, mais ça sera un enjeu pour le. Pardon, Denis. Ce sera un enjeu pour les semaines à venir, enfin les matchs à venir, peut-être avant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si on sera hyper joueur pendant toute la Coupe du Monde, mais on aimerait effectivement voir cette équipe un peu plus maîtrisée sur la durée. Son investissement offensif, on va dire. Et puis après, pour moi, il y a le deuxième point, c'est trouver la solution à l'arrière. Est-ce que Jaminet, pas Jaminet?
Alors oui, voilà, j'allais y venir. Ouais. Manu, toi, tu penses qu'il y a encore des postes où on n'est pas
pilier droit
summum, quoi.
Et l'arrière. Pied droit, arrière et centre.
Et lié aussi parfois, moi. Si Teddy Thomas ne revient pas, ce sera des joueurs qui vont dépanner à ce poste-là. Il n'y a pas beaucoup, pour moi, de
spécialistes. En remplaçant, tu veux dire, en finisher. Ouais. Mais
après... tu parles du remplaçant?
Ouais.
Ouais. Pour moi, c'est joué à partir du moment où tu... Avec si tu fais un 6-2, c'est joué.
Mais c'est oui, tu as raison, je te viens dans ton sens. Après, pilier droit, c'est vrai que personne ne s'impose pour l'instant. En espérant que Aouas retrouve le niveau qui est le sien. Mais,
ou que Bamba,
s'affirme. Et, oui,
Aouas n'a pas été. Il
n'a pas fait un grand tournoi, mais il revenait de blessure.
Bamba n'a pas fait des rentrées.
Bamba a eu des trous d'air un petit peu. Mais à l'arrière, moi, le problème de l'arrière, moi, je n'ai pas trouvé.
Vous n'avez pas été convaincu?
Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé plutôt bon, à part ce passe dans les pieds
qu'il donne la longueur au pied.
Et surtout, il est buteur. Moi, tu gagneras pas une Coupe du Monde sans un grand buteur.
Non, mais d'accord, on va pas revenir dessus.
Jalibert,
90%. Entamac, quand il bute, il est. Wilfried, il a combien? 88,5%.
Ouais, mais c'est pas le même.
Je pense que Jalibert est encore au-dessus. Jaminet.
Je peux pas croire que Jaminet. Soit largement supérieur à Ntamack. S'il est à 95% de réussite, le débat il est clos. S'il est entre 90 et 85%, attention, il y a l'apport offensif. Je vais pas le flinguer.
Mais tu mets qui à l'arrière du coup?
Je pose la question, je te dis, le poste d'arrière il n'est pas solutionné.
C'est la politique de Denis, va tout lui mettre Jalibert à l'arrière.
Vous voulez parier?
Non, quoique.
Non, mais il a les qualités pour. Après, l'arrière.
C'est toi qui payes.
Non, mais à l'arrière, mais. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a Brice Dulin qui
je vous dis pas que Jaminet...
en concurrence, Thomas Ramos.
Il n'a pas 36.
Ah, mais vous dites ça aussi parce que Jaminet a eu des difficultés en Écosse sur les ballons. Par exemple,
moi, j'ai trouvé bon contre l'Angleterre. Je suis désolé.
Et
moi,
contre l'Angleterre, bon. Je ne trouvais pas mauvais dans ce domaine. Hein.
Oui,
mais je trouve qu'il fait un bon match.
Mieux, il a deux fois, il a une passe dans les chaussettes. Après, il a un surnombre qu'il oublie dans les 22 anglais où ça fait dame avant l'essai.
Il y a ce drop un peu, on ne sait pas
pourquoi. Ouais, il y a ce drop qui vient. Voilà, pour l'instant, il n'a pas tué le game.
Ouais. Bon, en tout cas, ça nous fait plein de sujets de débat à venir dans les mois à venir, même si elle va nous manquer, l'équipe de France. Alors là, moi, je suis entré en déprime totale. Plus de tournois. Ça va être long.
Il y a d'autres matchs, Christophe.
Mais regarde le Stade Toulousain, c'est l'équipe de France.
Ouais.
Console-toi.
Ouais, je me console.
Et oui, voilà. Il y a plus que Stade Toulousain qui a gagné Montpellier, qui va être champion de France.
Les gars, on va arriver avril, mai, juin. C'est voilà.
Il va y avoir match de bon rendez-vous. Et la Coupe d'Europe aussi.
Phase finale de Coupe d'Europe, de top 14. Oh là là, il est blessé.
Ils m'ont tellement enchanté. Voilà, oui. J'aimerais qu'il y ait des matchs internationaux toutes les semaines pendant des années comme ça. Et ça ne s'arrête jamais.
Je n'aurais pas cassé l'ambiance, mais une pensée pour la famille de Federico Martinez.
Oui, terrible. Ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à
Sport à eux. On est tous encore choqués. Même aujourd'hui, après ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots. C'est affreux. S'immiscer dans la vie d'une famille comme ça, en semant le malheur, c'est vrai que ça doit être très très dur pour sa famille et ses proches.
Il y a eu une grosse émotion de tout le rugby français. La conférence de presse de Maxime Lucu samedi soir, c'était assez poignant, franchement.
C'est Marco Duzan qui lui pose la question. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce que Marco, il est aussi
d'une dignité.
Exactement. Et Maxime, formidable. Ça a été sans doute dur pour lui, mais chapeau parce que c'était vraiment dur.
Ouais. J'ai pas le droit d'être triste, il disait, par rapport à sa famille. Juste une dernière chose, messieurs, les rendez-vous de novembre exactement. France-Australie en premier le 5 novembre. France-Afrique du Sud à Marseille le samedi 12 novembre. Et à Toulouse, France-Japon le samedi 19 novembre.
On ira manger
Australie-Afrique du Sud-Japon.
On va tous manger chez Wilfried.
Bonne idée. On va manger des sushis,
les poteaux.
On mange beaucoup.
Merde, il faudrait faire un pari. Tiens. On va faire un pari avec Denis. Je suis sûr qu'il peut nous inviter. Tout ça vous fait quelque part. Merci en tous les cas. On s'est régalé avec vous tout au long du tournoi. Mais les poteaux, ça continue tous les lundis avec évidemment le championnat qui reprend, la Coupe d'Europe. Il y aura de beaux moments encore à vivre et on analyse et on débriefe tout ça tous les lundis. Bonne semaine, à lundi prochain. Ciao, salut les poteaux.
Salut les amis. Ciao.